Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx, les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Giovanni Gentile, aujourd'hui le manifeste des intellectuels fascistes.
Le fascisme aura été l'invention maléfique du siècle, de celui que les historiens ont pris l'habitude de faire débuter avec la Grande Guerre, le XXe. Et l'accoucheur de cette invention peut bien être désigné comme l'enfant du siècle, selon le titre du premier volume de la Somme que lui a consacré un de nos invités de ce jour. Il s'agit bien sûr de M. Ce M que des foules ont adulé avant de vouloir le pendre. La boue sanglante de Verdun, comme le désastre italien de Caporetto, ont fait les malheurs d'un temps et annoncé la fin de ce que Stefan Zweig désigna avec nostalgie comme le monde d'hier. Ces montagnes de mort n'ont pas seulement précipité des révolutions victorieuses ou défaites. Elles ont aussi été une lessiveuse des consciences. Certains en sont sortis pacifistes à jamais. D'autres sont devenus de farouches partisans de la violence nationaliste, aux dépens de tout internationalisme, si ce n'est de toute humanité. Ce M, c'est donc Mussolini. Cela pourrait être aussi le M de Manganello, de la matraque, tant le fascisme fut d'abord violence avant d'être doctrine constituée. Et le désir de ce charismatique orateur aux mimiques improbables, de cet aventurier au passé d'instituteur, de ce journaliste un temps directeur d'un hebdomadaire qui portait le titre de « La lotte des classes, la lutte des classes », de ce lecteur de Karl Marx, de Georges Sorel et même de l'anarchiste Pierre Kropotkin, de celui qui fut adulé par les ouvriers socialistes qu'il va trahir, de ce profondeur de ceux qui mollissent, boy à qui molle, c'était de faire rentrer dans l'histoire des idées le nom de son invention, le fascisme. Mussolini va donc charger un intellectuel, figure de l'université, de synthétiser dans un manifeste adressé à la fois à Rome et aux intellectuels de toutes les nations ce qu'est la nouvelle religion qu'il impose aux Italiens. Son nom, Giovanni Gentile. En 1944, les partisans ne le louperont pas et il paiera de sa vie d'avoir été le porte-plume en titre de M, le maléfique. Il avait 68 ans. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Marianne Matar-Bonucci, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 8, spécialiste reconnu du fascisme auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages. On vous doit en particulier une étude qui a fait date sur la persécution des juifs sous le fascisme. Votre dernière publication s'intitule « Totalitarisme fasciste ». Il est publié chez CNRS Éditions en 2018. Antonio Scorati, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier et à mes yeux une sorte d'historien sui generis. Vous continuez la rédaction d'un documentaire romanesque, comme vous l'appelez, dont Mussolini est le personnage central. Le tome 1, L'enfant du siècle, a été honoré en 2019 du prix Strega, c'est-à-dire le prix Goncourt italien. Oui. Le tome 2, L'homme de la Providence, a reçu le prix du livre européen. Les deux tomes sont d'ores et déjà disponibles aux éditions Les Arènes. Et le tome 3, Les derniers jours de l'Europe, paraîtra en septembre, toujours chez le même éditeur. Et nous attendons avec impatience le tome 4, le dernier, qui est en cours d'écriture. Je voudrais commencer par vous, Antonio Scorati. Il faut attendre 6 ans avant que la doctrine fasciste commence à s'écrire, c'est-à-dire entre 1919 et 1925. Le fascisme ne serait que violence? Les masses n'adhéreraient qu'à la violence? Ou qu'est-ce qui se passe précisément?
Non, non dirais que le fascisme...
Non, je ne dirais pas que le fascisme
violence.
A certo, été
la violence
que
est una
de la violence.
Originaria
bien sûr,
et
la violence est une composante initiale et fondamentale du fascisme. Et on ne peut pas imaginer le fascisme sans violence.
Politica,
mais pendant les premières années de la vie politique... avant l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini, un manifeste des intellectuels fascistes aurait été inimaginable parce que le regard sur la politique, la propagande rhétorique officielle des fascistes de la première heure montre un mépris vis-à-vis de la théorie, vis-à-vis de toute structure doctrinaire, même vis-à-vis des programmes politiques. Mussolini, qui venait de l'expérience du socialisme, disait les discussions qui concernent la théorie, laissons-les aux socialistes qui étaient vus comme incapables de faire la révolution.
L'assoluta priorità dell'azione.
Alors que pour le fascisme, il rivendiquait l'effet de l'action, y compris de l'action violente, mais non seulement. Il disait les programmes politiques ne sont que des morceaux de papier à jeter. La doctrine, c'est une perte de temps. Nous sommes les hommes qui vont faire la révolution, qui vont à l'assaut de l'histoire. Les intellectuels ne sont qu'un frein. Ils ne sont pas utiles. Donc, cette polémique anti-intellectuelle faisait partie de la politique contre le Parlement. Le Parlement était vu comme quelque chose de vieux, une perte de temps, quelque chose d'inutile qu'ils allaient balayer dans la fougue de l'action, y compris violente. Voilà la prémisse de Mussolini.
Pourtant, dès la première réunion des réseaux fascistes en 1919, il y a un programme qui est au moins présenté et qui est un programme qui n'est pas une théorie, mais qui n'est pas une formalisation théorique, mais qui est quand même un programme politique assez vigoureux.
Et peut-être contradictoire aussi, Marianne Mater Bonucci, ce programme de 1919.
En fait, c'est très curieux cette affaire de programme, parce que la réunion de fondation des faisceaux de combat en mars 1919 s'ouvre sans programme. Et le programme est mis sur le papier au cours de la réunion, avec des revendications qui sont encore très proches de là d'où vient Mussolini, notamment du syndicalisme révolutionnaire. Et ce n'est que quelques semaines plus tard que le programme sera effectivement publié dans la presse, le temps justement de pratiquer quelques ajustements. Et donc, ça vérifie ce que disait Antonio Scurati, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de pragmatisme parfaitement assumée au départ dans le fascisme, dont l'un des slogans est « Notre doctrine, c'est l'action, c'est le fait ». Et en novembre 1921, lorsque le mouvement... Car au départ, c'est un mouvement qui ne veut pas emprunter justement la forme traditionnelle du parti politique, avec tout ce que disait Scurati, c'est-à-dire le parlementarisme, etc. Il y a une condamnation de la forme parti. En novembre 1921, c'est bien un parti qui est créé. Et cette fois, il y a un nouveau programme qui revient dans une large mesure sur des choses...
Sur celui de 1919.
Voilà, sur celui de 1919. Donc on voit bien qu'il y a effectivement ce pragmatisme et que le fascisme ne s'interdit aucun reniement dès le début et aucune forme d'évolution.
Et aucun reniement et va déstructurer les organisations syndicales, le mouvement ouvrier, par une violence que vous décrivez, qui est extrêmement dure. Et on reste un peu sidéré par cette capacité de dissoudre l'adversaire dans la violence, Antonio Scurati.
Sì, c'è, io scrivo che c'è addirittura qualcosa di misterioso.
Qu'il y a même quelque chose de mystérieux dans la vitesse par laquelle la grande organisation socialiste dans les campagnes de la plaine padane,
decenni di storia gloriosa alle sue spalle,
qui avait eu une histoire glorieuse et qui était formée par des ligues d'agriculteurs, des chambres du travail et qui avait fait développer ces territoires-là. S'écroule vis-à-vis de la violence fasciste en l'espace d'un an. Il y a des provinces comme Ferrare qui étaient demandées comme des provinces plus que rouges, écarlates, parce que tous avaient une administration socialiste.
Et
il aurait suffi deux campagnes de violence des fascistes pour faire passer tous ces agriculteurs sous les drapeaux du fascisme. Et ils étaient beaucoup plus nombreux que les fascistes au début. Alors, il est évident qu'il y a une explication. Tous ces paysans, ces hommes et ces femmes étaient des femmes qui travaillaient, qui construisaient de façon difficile et lente le travail. Ils essayaient de labourer les champs en profondeur. Les autres étaient les professionnels de la violence. Ils étaient presque tous membres des Arditi, les escadrons d'attaque.
Et
donc, cette violence est une attaque qui se renouvelle à chaque fois. Donc, lorsqu'il y a un clash entre les hommes de la construction et les hommes de la destruction, s'il n'y a rien qui les bloque, c'est les hommes de la destruction qui gagnent.
Ça, c'est vrai pour la masse, mais ce qui est décrit quand même, c'est l'écroulement de la direction politique de ces organisations du Parti Socialiste. C'est déjà ce qu'avait écrit un livre célèbre sur l'histoire du fascisme d'Angelo Tasca. Il y a quelque chose là aussi de mystérieux qui est décrit, c'est-à-dire comment ces leaders s'effondrent, Marianne Mater-Bolucci.
Oui, enfin, je crois qu'il ne faut pas non plus sous-estimer quand même l'impact de la violence. On parle vraiment d'une situation de guerre hein, qui est menée par ces groupes fascistes qui sont pour nombre d'entre eux effectivement de jeunes anciens combattants qui reviennent de la guerre avec la volonté d'en découdre. Les leaders sont souvent effectivement ces arditi, c'est-à-dire ceux qui étaient issus donc des troupes de choc à la fin de la guerre. Donc il y a une professionnalisation de la violence face à laquelle, en effet, les responsables des coopératives, des partis sont démunis. Alors il y a cependant des formes de résistance. Hein. Les deux tiers des victimes sont dans les rangs du mouvement ouvrier et un tiers environ sont des victimes fascistes. Alors ce qui doit aussi être pris en compte, c'est la complicité d'une partie de la police, des forces de l'ordre avec les fascistes, car il y a eu une grande peur quand même en Italie. Hein, en 1919-1920, il y a eu ce qu'on appelle le Biennio Rosso, c'est-à-dire un mouvement social avec des occupations d'usines, en particulier à Turin, des occupations de terres, qui a suscité la peur de la bourgeoisie, cette bourgeoisie et une partie des classes moyennes qui vont effectivement soutenir donc les fascistes. Mais c'est important de prendre en compte ce paramètre, en effet, de la sidération et de l'affaiblissement ces organisations ouvrières, parce que lorsque les fascistes arrivent au pouvoir, contrairement à ce qu'ils diront et ce que dira une vulgate, il n'y a plus de danger révolutionnaire. Le danger révolutionnaire, qui probablement n'a jamais existé, en tout cas a été dépassé depuis longtemps.
Mais il y a aussi une part de séduction dans le fascisme. Il n'y a pas que la terreur pour convaincre.
Donc, la propagande fasciste avec la violence fasciste porte une simplification de la réalité brutale. C'est comme si ils voulaient dire « Mais non, mais la réalité n'est pas si complexe comme les parlementaires à Rome vous disent parce qu'ils ont intérêt à voler, à remanier. » En fait, il n'y a qu'un ennemi et cet ennemi, c'est l'invaseur, c'est les socialistes. Même s'il est italien, c'est un invaseur, un envahisseur parce qu'il s'inspire aux idées de la révolution russe. Donc, l'étranger, il disait même que les socialistes portaient la peste asiatique. Alors, il n'y a qu'un ennemi. Donc, ils disent, si vous restez avec nous, nous allons tuer cet ennemi et tout va se résoudre. La violence devient un objet de désir politique, même chez le petit bourgeois qui ne la pratique pas. Voilà les grands risques, hier comme aujourd'hui.
Marianne Mater-Bonucci.
La question de la violence est en effet tout à fait centrale. La violence est présente et justifiée dans tous les mouvements révolutionnaires. révolutionnaire, mais le fascisme est peut-être l'une des seules doctrines qui fait l'apologie de la violence pour elle-même. Et là, il y a une différence majeure dans les totalitarismes, semble-t-il, avec la culture communiste, qui justifie la violence, mais comme un moyen, tandis que là, il y a l'idée d'un accomplissement de l'individu dans la violence. Pourquoi ? D'une part, la guerre, on en a déjà parlé, mais c'est très important, il y a cette culture de guerre, mais les origines aussi idéologiques du fascisme se rattachent au nationalisme, qui est une idéologie viriliste, qui fait l'apologie de la force, se rattache aussi au futurisme. Et le futurisme, n'oublions pas, fait l'apologie de la guerre, purement et simplement, seule hygiène du monde. Donc tous ces éléments-là convergent effectivement pour que ce mouvement en terre catholique, de l'Église, fasse l'apologie de la violence, et c'est le cas dans le manifeste. Hein, c'est le cas dans le manifeste.
Absolument, et ce manifeste, donc, qui va être entre autres signé par Marinette, l'inventeur du futurisme, donc il émane d'un congrès des intellectuels italiens du Parti national fasciste, et qui tiennent à porter à la connaissance de tous ceux qui, en Italie et hors d'Italie, désirent se rendre compte de la pensée de l'œuvre du Parti national fasciste. Et alors, c'est quoi ce manifeste? Parce que il a des aspects un peu contradictoires même.
Oui, alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a rappelé donc qu'il y a une dimension anti-intellectualiste hein, dans le fascisme, comme il y aura dans le national-socialisme, indéniablement. Mais donc en 1925, Mussolini est au pouvoir donc depuis presque 3 ans, hein, et il veut donner une légitimité supplémentaire, un supplément de lustre donc au gouvernement. Et pour cela, donc, il est important de se déprendre de cette image d'un mouvement qui est anticulturel, qui est contre les intellectuels, d'où l'organisation donc en mars d'un congrès, d'un colloque fasciste donc de culture à Bologne. Et Mussolini demande aux organisateurs et en particulier à Gentile de faire des propositions pratique, et il ressortira notamment de ce colloque eh bien la création d'un institut de culture fasciste qui va jouer un rôle ensuite dans la mise au pas de la culture. Et le 21 avril, et le jour n'est évidemment pas choisi par hasard, c'est le jour de la fondation mythique de Rome, eh bien, est publié dans le Popolo d'Italia, donc le journal du parti fasciste, ce texte, qui est un texte long, verbeux à bien des égards, assez filandreux, qui s'adresse, hein, le titre est intéressant, Manifeste du fascisme aux intellectuels de tous les pays, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'idée que l'on veut s'adresser au monde parce qu'on pense qu'il y a dans le fascisme une dimension aussi universelle.
C'est urbi et orbi.
Exactement, exactement. Et là, donc, c'est l'un des premiers textes où la doctrine, il y a eu des programmes, mais c'est l'un des premiers textes où la doctrine est mise en forme, donc grâce à cet intellectuel qui est Gentile.
Et dans ce texte, il y a, Antonio Scurati, il y a la justification de la marche sur Rome. Voilà, et il est même écrit, comme toutes les entreprises audacieuses inspirées par des principes moraux d'une grande élévation, cette marche souleva au premier moment un étonnement qui ne tarda pas à se transformer en admiration. En réalité, c'est une reconstruction, c'est un discours un peu, on construit la légende épique du fascisme à travers ce premier manifeste.
Sì, è così, però oui, noi non dobbiamo fare l'errore di guardare questo manifesto, diciamo così, col senno
di poi, con gli occhi di cent'anni dopo. A nos yeux d'aujourd'hui, parce que lorsque ce manifeste est rédigé, l'admiration vis-à-vis du fascisme et de la marche sur Rome était bien répandue, non seulement en Italie, mais également à l'étranger. Si vous lisez les commentaires de la presse internationale, de la diplomatie des États-Unis, anglaise, française même, si vous lisez les jugements que Winston Churchill a donné du fascisme à l'époque, vous allez être effaré de découvrir qu'il y avait un regard cynique, mais également d'admiration vis-à-vis de cette révolution qui, tout compte fait, leur apparaissait passée comme non sanglante, parce que effectivement la marche sur Rome avait compté quelques morts, mais bon, c'était un succès politique. Et donc, il y avait un aura de grandeur autour de Mussolini. Et lorsque Giovanni Gentile, qui était un philosophe d'envergure européenne, l'un des rares, paradoxalement d'ailleurs, Giovanni Gentile e Benedetto Croce étaient les deux signataires des intellectuels fascistes et du manifeste des intellectuels antifascistes. C'étaient les seuls intellectuels italiens qui étaient connus à l'étranger. Donc, lorsque ce manifeste est signé comme accomplissement d'un processus d'unité nationale, cela a été admiré par la plupart. Donc, il ne faut pas commettre l'erreur maintenant de le considérer comme quelque chose d'absurde et inesplicable. Parce que Benedetto Croce lui-même, quelques jours après la publication des intellectuels fascistes, va signer les manifestes intellectuels antifascistes en juin 1924, quelques jours après l'enlèvement et probablement l'assassinat de Giacomo Matteotti, le secrétaire du parti,
qui était l'opposant socialiste connu à ce moment-là.
Che era l'unico oppositore a viso aperto,
qui était le seul opposant ouvertement resté au Parlement. Il avait été enlevé en plein centre de Rome, en plein jour, par des fascistes. À l'époque, ils n'avaient pas encore retrouvé le corps, mais tout le monde imaginait qu'il avait été assassiné par les accolades de Mussolini. Donc, même si l'horreur avait été suscitée chez les Italiens, Benedetto Croce a voté en faveur du gouvernement Mussolini dans l'espoir que ce gouvernement puisse rendre apaisé le pays dans l'unité nationale. Cela pour vous dire que même les hommes les plus intelligents étaient aveugles vis-à-vis de leur même, de l'histoire qu'ils étaient en train de vivre.
Marianne Matar-Bonucci, oui, c'est inquiétant parce que ce manifeste va être signé par des grandes plumes, Pirandello, Ungaretti, Malaparte. On a parlé tout à l'heure de Marinette, mais quand on voit la liste, on voit qu'il y a l'université, enfin, il y a l'intelligence italienne, d'une certaine manière, qui est aveugle.
Une partie de, tout de même, l'intelligence italienne. Mais si on veut revenir sur le contenu du manifeste, parce que c'est tout à fait intéressant, parce que c'est un document qui annonce déjà, qui explique ce que sera le totalitarisme fasciste. Alors, on est en mars 1925. En janvier, Mussolini a repris la main. Le 3 janvier, Mussolini prononce un discours dans lequel il dit « J'assume tout ce qui s'est passé. J'assume en particulier la violence du fascisme. » Ce texte arrive 3 mois après. Il revendique la violence. Et par exemple, et ce qui est intéressant, c'est que la violence est théorisée en expliquant que le fascisme a un caractère religieux. Hein, et évidemment, ça ne va pas plaire à l'Église catholique. On est en terre catholique, mais là, on explique donc que le fascisme doit être une nouvelle religion, non pas une religion humaniste comme le catholicisme, mais une religion qui assume effectivement ces nouvelles valeurs. Et donc, voilà comment la violence fasciste est présentée. Le fascisme était minoritaire, mais des jeunes gens résolus, armés, portant des chemises noires, militairement ordonnés, allaient contre la loi pour établir une nouvelle loi. La force armée contre l'État pour établir le nouvel État. Autrement dit, on justifie l'usage de la violence pour changer donc le cadre politique. Mais il y a tout un développement aussi sur ce qu'est le fascisme, une conception austère de la vie, un sérieux religieux, et là on trouve la doctrine de Gentile, et qu'il appelle l'actualisme, un sérieux religieux qui ne distingue pas la théorie de la pratique. Et ça, je crois que ça mérite quand même qu'on s'y arrête, parce que comme Croce, il vient, et au départ Croce et Gentile étaient proches, hein, il y avait une forme d'amitié intellectuelle entre les deux, ils viennent tous les deux d'une tradition idéaliste, c'est-à-dire qui réaffirme la puissance de la pensée, mais là, il y a cette idée au fond que la pensée et l'action, eh bien c'est une seule et même chose, et on retrouve donc ce que de manière très pragmatique au départ, le fascisme affirmait. Alors, Gramsci, qui, à partir des 27-28, sera en prison, tournera en dérision cet actualisme en disant, ah ben finalement, les fascistes ont trouvé une doctrine qui leur sied comme un gant, hein, c'est-à-dire qu'ils habillent philosophiquement, au fond, le vide, hein, le vide et l'absence de doctrine. Mais là, je crois que Gramsci, qui a des analyses très fines en général, a un peu sous-estimé la profondeur réelle. Hein, c'est-à-dire que, en effet, Gentile et fasciste, même combat, hein, le fascisme a trouvé sa doctrine et elle est exprimée dans le manifeste.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Leschi.
Sul piano, diciamo, il est vrai così, que, formale, disons, formellement, l'actualisme de Gentile semble habiller d'une théorie philosophique la pratique violente du fascisme. Mais, à mon avis, il est tout aussi vrai que ce genre d'opération intellectuelle reste un peu marginal par rapport au développement successif de l'histoire de la dittature et du pouvoir personnel de Mussolini. Ce n'est pas un hasard que Gentile, qui sera ministre au début du régime, sera mis de côté avec plutôt des tâches au niveau culturel. Ce qui a été décisif et efficace pour l'affirmation du pouvoir fasciste et pour qu'il dure pendant 20 ans a été quelque chose de plus simple, mais beaucoup plus puissant que la théorisation d'un philosophe comme Giovanni Gentile. C'est-à-dire, ce sont ces caractéristiques que permettraient aujourd'hui de définir Mussolini un populiste. Donc, plus qu'une théorie qui est à même de saisir la réalité, la transformation de la réalité, comme était la théorie marxiste, Mussolini est efficace et donc le pouvoir fasciste s'impose et perdure pour une sorte de suprématie tactique du vide. Mussolini n'a pas de théorie, n'a pas ses idées propres, n'a pas de principes, n'a pas de stratégie à long terme. Donc, en fait, son atout, c'est le vide. C'est sa capacité d'oublier toute doctrine, toute idée reçue, de se remplir des humeurs, des passions tristes, comme je les appelle, et ce sont deux psychiatres français qui l'avaient créé, cette expression, des sentiments du peuple. Voilà, c'est ça sa capacité en tant qu'animal politique qui va l'amener au pouvoir et qu'il va continuer à exercer, du moins les premières années de sa charge, mais je dirais jusqu'à la fin. C'est ce qui, effectivement, fait penser que c'est un populiste vu de nos jours.
Là, je suis en partie d'accord seulement avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il est certain que ce n'est pas ce texte illisible à bien des égards qui va faire venir les larges masses au fascisme, mais c'est d'abord ça a d'abord été la répression, comme ça a été rappelé. Ce sera ensuite une politique avec une dimension populiste, en effet, que mènera le régime, et un régime qui sera amené à composer avec ce qui avait été dit initialement. Par exemple, Mussolini était anticlérical, c'est lui qui va faire la conciliation avec l'Église et qui va conduire à la signature des accords du Latran. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Reste que, peu à peu, se constitue, moi je crois, une véritable doctrine du fascisme. Au point d'ailleurs qu'elle va faire école, hein, dans un certain nombre de pays. Ça fait partie des aspects sur lesquels les historiens travaillent de plus en plus aujourd'hui, que de voir cette réverbération, cette fascination que le fascisme a pu exercer à l'étranger. Et ce texte s'adresse aux intellectuels d'autres pays. Hein. Donc il y a l'idée de voir ce qui peut amener quand même au dépassement d'une doctrine de circonstance strictement nationale. Et ce texte, si on le lit quand même de près, encore une fois, il faut le prendre au sérieux, parce que vraiment, ça dit noir sur blanc ce que doit être le totalitarisme. Par exemple, il y a un paragraphe sur l'opposition, et il explique purement et simplement que l'opposition devra s'éteindre, je cite, peu à peu, par attrition interne et inaction, et que de toute façon, c'est un principe inférieur au fascisme, donc l'opposition est vouée disparaître.
Et Hitler, du reste, avait dans son bureau, dit-on, un buste de Mussolini.
Mais oui, Hitler était un grand admirateur de Mussolini. Alors, dans les années 20 et jusqu'au début des années 30...
Il essaye d'avoir un rendez-vous avec lui et Mussolini ne veut pas le recevoir.
Oui, ce n'est qu'en 34, effectivement, qu'ils se rencontreront. Mais jusque-là, je veux dire, pour tous les mouvements nationalistes d'Europe et pas seulement d'ailleurs, l'Italie, c'est le modèle, c'est le phare. Hein. Il y a des intellectuels qui voient ça...
Churchill, y compris Churchill, et en plus, élogieux.
Qui voit ça, bon, l'idée, c'est Mussolini, l'homme qui va permettre que les trains arrivent à l'heure, qui va remettre un peu d'ordre. Et puis, il y a une dimension de préjugé, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans ce pays latin de joueurs de mandoline, et à la fin, même quand il y a de la violence, c'est de la violence gentille. Hein, donc, de toute façon, on ne prend pas ça avec énormément de sérieux.
Charles Maurras dira en 1923, « Nous n'avons aucun embarras à reconnaître la haute valeur des formules de Mussolini, bien qu'elles soient proches, cousines et même sœurs jumelles de celles que l'action française ne se lasse de jeter dans le monde depuis près d'un quart de siècle. » Et prêt d'être sonné, Antonio Scurati.
Io penso che valga la pena di precisare il nostro piccolo dissenso su questo punto.
Vale la peine de préciser notre dissension sur ce point. Allora, je crois que c'est intéressant.
Prendiamo l'ammirazione che Hitler aveva
donc,
per Mussolini.
Regardons l'ammiration qu'Hitler avait vis-à-vis de Mussolini.
Vera, duratura,
tout à fait vrai. C'était une admiration qui durait dans le temps. Il considérait Mussolini son maître du fascisme. Il avait même un lien sentimental atroce de mon point de vue vis-à-vis de Mussolini, parce qu'il disait « Ah, s'il n'y avait pas Benito Mussolini, je me sentirais seul au monde ». Mais pourquoi Mussolini était le maître de fascisme d'Hitler? Par la doctrine. Alors, l'élaboration doctrinale était importante pour le nazisme. Après le coup d'État de Munich, Hitler dicte son Mein Kampf, il dresse la théorie du nazisme en Europe jusqu'à la disparition des Juifs d'Europe. C'était tout était écrit, c'était ses obsessions, ses idées qui guident les nazismes. Ce que Hitler admirait chez Mussolini, c'était la pratique, la constitution d'un parti armé, l'identification entre membres de parti mais miliciens armés. Si l'on pense à l'antisémitisme, dans l'histoire du fascisme, l'antisémitisme est marginal. Il devient central à cause d'une décision opportuniste de Mussolini à la fin des années 30 lorsqu'il veut avoir une alliance avec les nazismes. Cela montre la tactique, le caractère pratique exaspéré du fascisme. Et j'aimerais conclure sur ce point.
Mentre il nazismo è ossessione
lorsque le nazisme est une obsession en ce qui concerne la doctrine, nous les intellectuels nous tendons à sous-évaluer le rôle du fascisme dans le nazisme parce que nous sommes des intellectuels. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui Mussolini est beaucoup plus actuel que Hitler, justement parce qu'il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas... Parce qu'il y a une propension du fascisme vis-à-vis de la tactique exaspérée.
Marianne Matar Bonucci, je voudrais revenir un cran en arrière sur le manifeste des antifascistes qu'on a évoqué rapidement, celui
dont c'est l'initiative de Benito Croce.
C'est une opposition extrêmement, timide, mesurée et presque aussi filandreuse que le manifeste fasciste lui-même, non ?
Alors, le texte est assez filandreux, c'est bien le mot. Alors, attention, en fait, c'est pas, il ne s'intitule pas le manifeste, d'ailleurs c'est signifiant, des intellectuels antifascistes, mais des intellectuels non fascistes, ce qui n'est pas la même chose. Et celui, donc la rédaction du texte a été suggérée à Croce par Amendola, Giovanni Amendola, qui était un intellectuel libéral qui est victime et qui sera victime du fascisme. Et Croce lui-même jusqu'en 24, fait les yeux doux au fascisme.
C'est l'affaire Matteotti qui l'a fait
absolument
basculer.
Absolument, il a changé. Mais encore au tout début de l'affaire Matteotti, il vote comme sénateur son soutien en juin 1924 au gouvernement. Et puis après, effectivement, il évolue. Mais au départ, il fait partie de ces élites libérales qui ont contribué à l'avènement du fascisme au pouvoir. Alors, c'est un texte qui est très, très curieux, qui est intéressant là aussi. Déjà au début, il y a cette notation que parfois on oublie. Il dit « Faites attention », il reproche aux signataires, donc, en leur disant « On est en 25, vous avez oublié ce qui s'est passé il y a 10 ans en Allemagne », et il fait allusion à un manifeste allemand, qu'on appelle le manifeste des 93, qui est un manifeste lors duquel, au tout début de la guerre, des intellectuels allemands...
Dès le mois de septembre 1914.
Voilà, avaient effectivement voulu apporter un démenti à ce qu'on appelait les atrocités, la dénonciation des atrocités qui avaient été commises lors de l'invasion, en particulier de la Belgique. Et certains regretteront amèrement après d'avoir signé ce texte. Donc, Croce fait allusion à cela et bon, il l'affirme dans une espèce de verbiage qui ne donne pas de force, qui contribue pas donc à porter avec force ses idées, mais il explique que il ne faut pas contaminer la littérature et la science par la politique. Et il y a une critique en particulier de la justification de la violence, donc dans le texte précédent. Mais il reproche aussi au texte, et là c'est le philosophe qui parle, je le cite, les mots de ce manifeste verbeux ne permettent pas de comprendre en quoi consisterait le nouvel évangile, la nouvelle religion, la nouvelle foi. Autrement dit, il y a une accusation de faiblesse du point de vue de la pensée, et de faiblesse philosophique. Ça vaut pas tripette, au fond, ce que vous avez mis sur le papier. L'idée, c'est ça.
Antonio Squirat, et du reste, vous rappelez que Mussolini brocardera avec mépris ce texte en disant au congrès, au 4e congrès du Parti National Fasciste, « Je vais vous faire un aveu qui vous comblera d'horreur. Je n'ai jamais lu une seule page de Benito Croce. » Voilà, et la salle se lève pour applaudir le Duce.
Qui, secondo me, c'è una, un giudizio definitivo sull'importanza.
Ici, il y a un jugement définitif sur l'importance de ces manifestes. Alors, je regrette beaucoup parce qu'il s'agit d'une série, celle-ci, dédiée aux manifestes. Mais en fait, Mussolini avait écrit une petite note de préface dans un texte de Benedetto Croce les années d'avant. Mais la chose la plus efficace, c'était simplement cette boutade méprisante vis-à-vis de Benedetto Croce qui a eu des conséquences historiques beaucoup plus fortes que le démenti de sa déclaration. Alors, pardonnez-moi si je reviens toujours à nos jours, mais je le considère un engagement intellectuel. Alors, comme tous les boutades de mépris des politiciens italiens vis-à-vis des intellectuels, des penseurs produisent un consensus beaucoup plus large qu'ils ne le perdent parce que justement ils s'appuient sur ce rancœur, ces mauvaises humeurs des couches très larges de la population vis-à-vis de ces intellectuels gauchistes, snobs de la gauche caviar. C'est ça effectivement qui est efficace dans l'histoire du fascisme, beaucoup plus que les disputes doctrinaires entre Croce et Gentile.
Alors, il va y avoir, Marianne Matar-Bonucci, dans l'histoire du fascisme, d'autres moments où on va écrire des textes qui symbolisent aussi, ou qui sont le moment de tournant idéologique. Le Manifeste de la race en 1938, c'est le tournant racialiste, antisémite, dont parlait Antonio Scurati, c'est-à-dire au moment où l'alliance avec le nazisme est particulièrement marquée, avec en plus quelqu'un qui arrive et qui va avoir une postérité, Julius Evola.
Oui, alors, en effet, donc il y a d'autres manifestes, il y a par exemple des manifestes dans le domaine esthétique, le manifeste de l'aéropeinture en 1929, qui est dans la continuité du manifeste futuriste, mais le manifeste dit manifeste de la race, qui en fait n'avait pas ce nom-là, mais peu importe, est publié le 14 juillet 1938. C'est un manifeste dont on découvrira d'ailleurs les auteurs après, quelques jours après, qui est destiné, et là, ça a beaucoup plus la forme du manifeste au sens programmatique du terme, hein, c'est-à-dire qu'il est destiné à annoncer le tournant raciste et antisémite du régime. Alors, on peut y lire c'est sous une forme apodictique, hein, on peut y lire des affirmations du type « les races humaines existent », il y a des grandes races et des petites races. Les Italiens appartiennent à la race aryenne et il est temps que les Italiens se proclament franchement racistes. Hein, et donc, on ne peut être plus clair, en effet, pour le coup. Donc, le manifeste est destiné à lancer la campagne raciale, c'est un signal, hein, et qui va être repris par les intellectuels, les journalistes, puisqu'il va y avoir une vaste campagne de propagande, donc raciste, qui suivra.
Et dans cette histoire des différents manifestes, il y a de nouveau une opposition avec un manifeste, mais qui aura là, pour le coup, une postérité plus grande. C'est le manifeste de ceux qui sont enfermés dans cette île, Ventotene, et qui est un manifeste pour l'Union européenne et fédéraliste déjà.
Oui, alors, une chose importante, dans manifeste, il y a manifeste. C'est-à-dire qu'on se manifeste, et ce qui est intéressant, c'est que ceux dont on a parlé, ils interviennent à un moment où c'est encore possible d'entendre deux voix, hein, 25. Le manifeste de la race, ça, ce n'est plus possible, on est en 38, c'est vraiment le totalitarisme, il n'y a plus qu'une voix, celle du fascisme qui s'exprime. Et le manifeste de Ventotene, qui date de 1941, et qui est un texte qui a été rédigé par Altiero Spinelli, qui est un des pères de la pensée européenne, avec Ernesto Rossi, grande figure de l'antifascisme, il est rédigé, mais de manière non manifeste, puisque c'est aux confines, c'est-à-dire dans ces îles où le fascisme envoyait les opposants politiques, mais c'est un texte qui aura, après la guerre, quand ces idées pourront s'exprimer à la lumière, effectivement une grande portée. Donc un manifeste non manifeste qui va devenir manifeste de la pensée européiste.
Alors, il y a ce manifeste-là, mais il y a cette situation tout à fait étrange, après la guerre, puisqu'on y arrive, d'un parti néo-fasciste, le MSI, qui se crée dès 1946, c'est-à-dire au lendemain, même un an seulement après la fin de la guerre. Comment est-ce concevable une chose pareille, dès lors qu'en prime, la constitution italienne elle-même va interdire la reconstitution de tout parti fasciste, Antonio Scurati? Comment expliquez-vous que, au fond, il n'y ait pas eu de réaction plus violente contre cette résurgence immédiate?
Non, non, les réactions violentes ci sono state, ma questo
bien sûr des réactions violentes, mais
tragica contraddizione.
Disons, voilà, c'est le résultat de la contradiction tragique de l'histoire politique italienne. L'Italie n'a jamais eu quelque chose comme le procès de Nuremberg. Les gérarchies fascistes n'ont jamais été amenés devant un tribunal pour être jugés pour leurs actions criminelles. Il y a eu en fait, c'est les États-Unis d'Amérique qui devaient dicter une paix nationale, mais beaucoup de fascistes ont été confirmés au sommet de la police, de la magistrature, des juges. Donc, nous avons vécu avec ce paradoxe sanglant pendant des décennies d'un parti inspiré clairement au fascisme, fascisme, même au pire moment de l'histoire du fascisme, c'est-à-dire la République, et qui a été souvent le quatrième parti en Italie. Mais cette contradiction a été sanglante, comme je vous le disais, parce qu'elle a contribué à ensangler l'histoire d'Italie pendant tous les années 60-70, surtout lorsqu'il y avait la lutte armée, le terrorisme, des centaines d'assassinats, de carnages, et alors que ça devait être à l'origine d'une pacification nationale, elle a causé une histoire tragique qui n'a jamais été résolue finalement, avec un passé fasciste avec lequel les Italiens n'ont jamais cadré les comptes.
Mais en juillet 1960, justement, il y a cette tentative de constitution d'un gouvernement démocrate chrétien soutenu par le mouvement social italien, c'est-à-dire par les héritiers du fascisme, qui va quand même susciter une réaction très violente et qui va perdurer effectivement pendant toutes les années 60.
Oui, tout à fait, avec des manifestations en effet très violentes. La conscience antifasciste après la guerre, en dépit du fait qu'en effet un parti néo-fasciste est créé, donc, et va participer à la vie politique italienne jusqu'aux années 80, c'est l'antifascisme qui fonde les valeurs de la République italienne. Et il y a dans la Constitution italienne l'esprit de l'antifascisme qui est extrêmement présent, quoi qu'en disent d'ailleurs certains leaders aujourd'hui issus de cette tradition-là. Je pense au président du Sénat, La Russa, qui a fait une déclaration très récemment, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, en disant qu'il n'y a pas de référence à l'antifascisme. Et l'antifascisme est, comment dirais-je, innerve véritablement les contenus mêmes de la Constitution. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que la classe politique italienne, s'inscrivant dans une longue tradition de transformisme qui a caractérisé quand même l'histoire de ce pays, de la démocratie libérale depuis le 19e siècle, faisait le pari qu'on allait intégrer cette force-là politique dans le jeu politique, que du coup on allait d'une certaine façon la désarmer. Et le pari a été en partie réussi, en ce sens que alors l'un des slogans de Almirante, qui va être le leader,
Giorgio Almirante, Giorgio, qui est le leader du MSI à partir de 1946.
Oui, mais qui avait joué un rôle dans la République sociale italienne, qui était le secrétaire de rédaction de la Difesa della Razza, la grande revue raciste, donc qui était un authentique fasciste, peu à peu va évoluer avec ce slogan « non rinegare, non restaurare », donc on ne renie pas, mais on ne restaure pas non plus. Et donc ils vont constamment naviguer comme ça entre deux eaux, d'un côté en participant aux élections et de l'autre sans jamais renier effectivement ce qu'a été le fascisme en célébrant la naissance, la mort de Mussolini, etc. etc.
Mais il y aura... En réintégrant même les radicaux du fascisme.
Absolument, mais quand même... On observe donc au fil des années une évolution doctrinale. Alors Berlusconi, je crois que c'est important quand même aussi de le rappeler, va contribuer à la légitimation de cette extrême droite en la faisant rentrer pour la première fois au gouvernement
en 1994
et dans les gouvernements successifs. Alors cette extrême droite va peu à peu quand même mettre un peu à distance cet héritage, d'abord avec Alleanza Nazionale et De Fini, puis avec Fratelli d'Italia de Meloni, mais tout en gardant quand même une grande ambiguïté, une forme de nostalgie, hein, il n'y a pas de doute, par rapport à certains fondamentaux du fascisme.
Mais est-ce que, Antonio Scoratti, est-ce que c'est cette évolution du MSI et du néofascisme qui explique au fond une forme, depuis une trentaine d'années, une forme de banalisation, voire de réhabilitation du fascisme? Est-ce qu'il y a une banalisation du fascisme, à vos yeux?
Ma loro non hanno mai affrontato apertamente.
Mais en fait, on n'a jamais
della loro discendenza
fait face pour ces personnes à leur descendance du fascisme. Il y a eu
non hanno mai rinnegato non hanno mai affrontato un déni.
Ils n'ont jamais renié, ils n'ont jamais compté avec leur passé néofasciste.
Gianfranco Fini le fit,
il prononça une phrase historique. Oui, c'était les leaders d'Alleanza Nazionale. Mais la génération d'après, celle qui est au gouvernement avec Giorgia Meloni, a répudié quelque part le réni de Fini du fascisme et a contribué à rechasser le passé fasciste dans une zone de... De déni et quelque part, à chaque fois, ce qui n'est pas résolu revient. Donc, cette affection, cette descendance de cette culture politique qui n'a jamais été déniée. Donc, effectivement, c'est un peu terrible d'écouter. Effectivement, le président du Sénat qui dit ces phrases ou lorsqu'il y a des phrases sur l'épuration ethnique. Alors, il y a un problème réel, c'est-à-dire la culture de droite qui est au gouvernement aujourd'hui en Italie et qui se prépare également à gouverner dans d'autres pays européens n'appartient pas à la tradition du conservatorisme. Mais fait penser à la droite illibérale qui remonte au fascisme d'un point de vue historique.
Et quand on va en Italie aujourd'hui, il y a une sorte de folklorisation. On trouve des tabliers avec l'effigie de Mussolini, des statuettes. Enfin, il y a quelque chose qui est comme une sorte d'évidence d'un personnage historique qu'on peut tout à fait mettre dans l'espace public, alors qu'on n'imagine pas cela, par exemple, en Allemagne.
Absolument. Autrefois, pour trouver ces objets, il fallait aller à Predappio, donc la ville natale de Mussolini, où il se vendait sous le manteau. Maintenant, c'est sur tous les marchés de Toscane, par exemple, où il y a quand même une tradition rouge, on trouve effectivement ces briquets, ces tabliers, etc. Ce qui me semble intéressant peut-être de dire, c'est que il y a une stratégie dans les usages publics de l'histoire de ce gouvernement pour renier l'actuel gouvernement de Meloni, pour se démarquer sans renier. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Meloni, elle est sur la ligne de Fini. Fini avait condamné très nettement les lois raciales et bien sûr la Shoah, l'antisémitisme.
Meloni n'était pas allée du reste en Israël aussi.
Meloni est aussi allée effectivement en Israël et elle raconte dans son autobiographie qu'elle a eu un choc, etc.
Qu'elle a pleuré,
mais elle dit immédiatement après dans son livre, je ne comprends pas comment le fascisme a pu en arriver là. Et voilà, donc ça s'arrête. Donc on dénonce la Shoah, mais parce qu'on fait comme si la participation italienne à la Shoah était un fait extérieur, au fond, à l'histoire même du fascisme. Donc on ne tire pas les conséquences et on ne cherche pas à comprendre comment le totalitarisme fasciste a conduit sans imitation ou sans injonction de l'Allemagne, effectivement, à la Shoah. Et là, il y a eu des épisodes récemment très intéressants à ce sujet. Il y a eu toute une polémique autour des fosses ardéatines, c'est-à-dire ce massacre de civils qui a été perpétré par les Allemands, mais auquel la police italienne a donné une contribution. Et Meloni a dit, ce sont des Italiens qui ont été massacrés par les Allemands, en oubliant que sur les civils, il y avait 77 juifs qui avaient été choisis en tant que juifs et qui, à l'époque, n'étaient plus considérés comme italiens par le gouvernement de la République sociale italienne. Donc on voit ces falsifications de l'histoire qui sont à l'œuvre. Et elle est allée récemment en Éthiopie. Pas un mot sur ce qu'a été la politique...
La guerre violente.
Qui a été une guerre atroce. Génocidaire, avec des crimes
Des camps de concentration qui sont mis en place.
Des camps de concentration, l'utilisation des gaz contre les conventions internationales, des villages entiers rasés au sol. Donc des crimes contre l'humanité. Et là, silence radio absolu.
Nous arrivons un peu au terme de cette émission, Antonius Corvati. Est-ce que... C'est la motivation de votre roman documentaire romanesque, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en tout cas formidable. Est-ce que la motivation, c'est de se dire, on ne peut définir le fascisme qu'en en faisant le récit, en le racontant au fond.
La motivazione è, fa parte anche di, una forma di impegno intellettuale,
è una sorta d'engagement intellettuel, une tentative de donner une petite contribution à la refonte d'un antifascisme qui ne peut plus être celui du XXe siècle idéologique et qui devrait unir tous les vrais démocratiques indépendamment de leur orientation idéologique. Moi, je pense que le fait de raconter le fascisme, pas de façon idéologique, mais à travers l'art du roman, à travers le fascisme, c'est-à-dire en révélant au public qui était Mussolini, qui était le fascisme, pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, va nous obliger, nous les Italiens et les Européens, avec cette partie refoulée de notre passé. Donc, on peut le faire uniquement à partir d'un sentiment de responsabilité ainsi que de culpabilité, c'est-à-dire en sachant que nous avons été fascistes, que nous avons inventé le fascisme, et pas simplement d'un point de vue symbolique de la victime. Nous devons comprendre pourquoi l'Italie a été principalement fasciste, qu'est-ce qui a séduit beaucoup d'Italiens, en plus de les avoir violés, de cet homme, Mussolini. Donc, nous devons nous assumer notre responsabilité, notre compréhension pour comprendre profondément. Je pense que le roman est un genre littéraire qui comprend tout le monde, donc il n'est pas suffisant lui-même.
Didier, nous arrivons au terme de cette émission. Quelques mots de conclusion.
J'avais dit en introduction que la volonté de Benito Mussolini, c'était de que son invention, le fascisme, rentre dans l'histoire des idées. On peut dire que d'une certaine manière, il y a réussi et au-delà même, et au prix bien sûr de sa mort, de la mort de sa plume, hein, Gentile, et ce qui a synthétisé, ce qui a été synthétisé dans ce premier manifeste, et on a vu qu'il y en avait d'autres, sert encore aujourd'hui de but témoin sur ce qu'il faut repousser d'une certaine manière, et ça sert d'autant plus de but témoin que il y a cette sorte de légitimation qui a été donnée par un halo, par quelques intellectuels, enfin quand même nombreux à un moment donné, et qui ont usé de leur prestige pour en réalité parrainer le pire, et qui reste encore quelque chose du reste qui hante les nuits de beaucoup de militants, de démocrates. Hein. On entend dans les rues de Paris régulièrement, mais aussi à Rome et ailleurs, hein, à travers le monde, ce mot d'ordre qui vient de l'Italie, siamo tutti antifascisti. Et c'est quelque chose qui prouve que l'invention maléfique, le M, hein, que d'Antonio Scurati, c'est le spectre qui entre encore nos nuits, et il faut se souvenir qu'à partir de ce spectre, Victor Serge avait eu une formule pour expliquer toute cette période qui va des années 20 jusqu'à la fin de la guerre. Il disait, c'est le moment où il est minuit dans le siècle. Voilà, et c'est parce qu'on ne veut pas qu'il soit de nouveau minuit dans le siècle qu'il faut se souvenir de ce qu'a été le fascisme pour mieux le combattre. Merci Marianne Matar Bonucci. Merci Antonio Scurati.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était les manifestes qui ont changé le monde. Préparation Seam Boutata. Prise de son Fabien Capel. Réalisation Guillaume Baldi. Traduction Federica Gianficoni. Une émission de Gérard Courtois et Didier Leschi. Demain, Hassan Al-Banna, le manifeste des frères musulmans.